Bonjour et bienvenue dans Questions politiques et merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Question aujourd'hui, comment prendre conscience de l'urgence climatique? Comment faire de l'écologie l'enjeu majeur de toute politique? Réponse du philosophe français Bruno Latour. D'abord comprendre qu'il n'existe qu'une seule Terre, qu'il n'y a pas de planète de rechange et que nous sommes embarqués sur cette Terre comme à bord d'un vaisseau spatial. Ensuite, prendre conscience que nous avons une responsabilité, l'image est forte, celle de régler la climatisation et donc la température pour éviter la catastrophe du réchauffement climatique. Notre invitée aujourd'hui, c'est justement elle qui porte la question de l'écologie politique au sein du gouvernement. Elle présentera demain le projet de loi Climat et Résilience à l'Assemblée, un texte qui suscite déjà des critiques avec des appels à la mobilisation un peu partout en France aujourd'hui, des marches pour une vraie loi climat, des dizaines d'associations et d'ONG qui veulent mettre la pression sur la majorité et l'exécutif. Question politique est en direct avec la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Pour intervenir, l'application France Inter et les réseaux.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Et bienvenue pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Jeff Wittenberg de France Télévisions. Bonjour Jeff.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver dans l'émission.
Également.
Françoise Fressos du journal Le Monde, bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Karine Bécard de France Inter, bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Karine qui a préparé votre portrait, Barbara Pompili, et nous le découvrirons ensemble tout à l'heure. Ce projet de loi, c'est l'un des derniers grands textes du quinquennat et il a évidemment une grande attente qu'il a suscité, ce texte sur le climat. Pour comprendre d'un mot le projet de loi Climat et Résilience, quel est l'esprit de cette loi que vous voulez voir voter ?
L'esprit de cette loi, c'est de faire rentrer l'écologie dans la vie quotidienne des Français. C'est de donner à tous les Français les moyens de pouvoir être des écologistes. Trop souvent, on a donné des grands chiffres, des grands objectifs. Il en faut, parce qu'il faut savoir où on va. Mais après, il faut faire en sorte que ça puisse se réaliser sur le terrain. Et tout ce qui se passe dans cette loi, c'est la possibilité pour les gens de pouvoir faire de l'écologie sur le terrain, de pouvoir rénover leur logement, de pouvoir choisir leur transport, de pouvoir choisir, quand ils vont faire leurs courses, des produits qui sont des produits qui défendent l'environnement.
On va en parler justement, et dans le détail de ces mesures, elles sont importantes. Mais d'abord, expliquez-nous... Ce mot de résilience, qui en a eu l'idée? C'est un mot qui vient de la psychanalyse, qui a été popularisé par Boris Cyrulnik pour décrire la façon dont on peut surmonter un traumatisme, une catastrophe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre loi a pour objectif d'éviter la catastrophe ou que la catastrophe a déjà eu lieu et qu'il faudrait maintenant apprendre à s'en remettre?
Mais en fait, vous avez parfaitement raison. La catastrophe peut arriver si on ne fait rien, mais on a déjà des prémices de catastrophe qui existent aujourd'hui. Si vous allez dans la vallée de la Vésubie, je pense que les gens ont très bien compris ce que c'était que le réchauffement climatique, avec les inondations, avec les sécheresses qui arrivent dans d'autres endroits. Bref, maintenant, on ne doit plus seulement essayer de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi faire face et pouvoir être résilient, justement.
Le mot vient de vous?
Le mot, il vient d'un certain nombre de personnes.
Mais qui en a eu l'idée, parce que c'est un intitulé vraiment bizarre.
Ça sonne comme Emmanuel Macron quand même, non? C'est lui ou pas?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout.
Enfin, en l'occurrence, il porte ce texte et il porte ce mot, évidemment. Mais moi, j'avais connu la même chose quand j'ai porté la loi sur la biodiversité il y a 4 ans. Il y a 4 ans, la biodiversité, personne ne savait ce que c'était exactement. Tout le monde avait une vague idée. Sur la résilience, c'est pareil. On se pose encore des questions maintenant.
Mais c'est pas un mot
d'écologiste. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, tout le monde connaîtra le mot résilience et ce que ça veut dire face au réchauffement climatique.
Françoise Fressoz.
Le vice originel de ce projet de loi, c'est qu'au fond, il est issu des travaux de la Convention citoyenne sur le climat qui avait un objectif assez précis qui était de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Et une partie de cette convention a dit qu'au fond, le gouvernement n'avait pas repris la totalité de ses propositions et qu'il restait très en deçà de ce qu'il faut faire. Et donc, on a l'impression que vous, même si vous êtes une écologiste convaincue, vous n'arriverez jamais, au fond, à être à la hauteur des attentes, y compris de... au fond, un organisme démocratique qui a été créé à cette fin, qui était la Convention citoyenne sur le climat. Donc comment vous vous situez par rapport à cette contradiction ?
Barbara Pompili.
Alors, d'abord, sur l'écologie, le combat, il continue toujours. Toujours. Il ne s'arrête pas à ce projet de loi, il ne s'arrêtera pas à la fin de ce quinquennat, il devra continuer. Par exemple, en ce moment, moi, je suis en train de me battre avec d'autres collègues pour qu'on mette en place un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est quoi ? C'est une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne.
Parce répondez à Françoise Fraisseau.
Tout ce qu'on est en train de faire actuellement n'existe pas si ça n'existe pas aussi à l'international.
Vous évitez la question.
Sur la loi climat, c'est un bout d'un puzzle global. Quand les citoyens, les membres de la Convention citoyenne pour le climat disent « dans ce projet de loi, il n'y a pas tout ce qu'on voulait », non, évidemment, parce qu'il y a aussi des mesures qui ne sont pas du tout d'ordre législatif. Il y a des mesures qu'on a prises dans le plan de relance, par exemple. Il y a des mesures qu'on a prises au niveau réglementaire. Quand on met en place des aides pour aider des gens à changer de voiture, c'est pas dans la loi. Mais ce sont des aides, sonnantes et trébuchantes. On donne des bonus écologiques pour que les gens puissent prendre leur voiture.
L'acceptabilité par les Français d'un vrai projet écologique n'est pas encore assumée, ou en tout cas, vous le jugez pas nécessaire. C'est ça que je voudrais essayer de voir. C'est comment vous vous situez par rapport à ce combat. Vous êtes l'une des premières qui a dit il y a urgence climatique, la planète brûle. Et en même temps, on voit bien qu'au fond, vous êtes pris dans un faisceau de contraintes sur l'acceptabilité des mesures ou sur la capacité de l'industrie à s'adapter. Et je pense que votre position est quand même difficile à tenir.
Pour rendre des mesures acceptables, il faut mettre en face les moyens pour que les gens puissent les assumer. On a connu tous ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. La taxe carbone était une bonne mesure en tant que telle. En théorie, elle est très bonne. Sauf que quand vous dites à des gens « ne prenez plus votre voiture », mais que les gens n'ont pas en face soit les moyens d'en changer, soit les transports en commun pour pouvoir y aller, soit n'importe quoi qui leur permette de répondre à cette injonction qu'on leur donne, eh bien on se retrouve face à une crise et à la fin, on n'a pas de mesures. Donc ce que je veux dire à tout le monde, c'est que des mesures très ambitieuses qui à la fin ne peuvent pas s'appliquer, ce sont simplement des mesures qui n'existent pas. Donc ce que je veux, moi, c'est qu'on ait les mesures les plus ambitieuses possibles. Et je pousse, et je continue à pousser dans ce texte de loi pour qu'on puisse pousser les curseurs le plus loin possible. Mais en face, je fais en sorte que pour chaque mesure, il n'y ait personne sans solution. Sinon, on aura un beau texte avec des beaux chiffres. Et moi, je pourrais me gargariser d'avoir mis des choses magnifiques dans le texte.
Mais ça ne s'appliquera pas.
Et donc oui, au Parlement, évidemment, nous avons encore des avancées qui vont, je l'espère, être votées par les parlementaires et on y travaille encore en ce moment.
Vous parliez de la taxe carbone qui a mis le feu aux poudres et déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Il y a quelque chose que tout automobiliste peut constater encore 2 ans et demi après cette crise, c'est que le carburant réputé le plus polluant, le diesel, est toujours moins cher que le carburant, l'essence sans plomb. Comment expliquer ce paradoxe ? Est-ce que vous êtes décidé à changer cet état des lieux alors que le diesel a été accusé de tous les maux, très concrètement ?
Barbara Pompili.
Le monde est en train de changer là-dessus. Ouais. Et beaucoup plus vite que ce que certains pensaient. L'année dernière, on a multiplié par 3 les ventes de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Donc c'est un monde qui est en train de changer. On va interdire
sur le carburant, hein.
On va interdire les véhicules thermiques en 2040. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer qu'on travaille dans la loi pour que ce soit aussi le cas pour les camions, les bus, les cars en 2040. On va mettre un jalon dans la loi pour que tous les véhicules qui émettent plus de 95 grammes soient interdits à la vente en 2030. Donc on pose ce jalon. Donc c'est en train de se terminer. C'est en train de se terminer.
Vous parlez de 2040. Pourquoi en 2021, le carburant le plus polluant est le moins cher ?
Parce que aujourd'hui, on a un certain nombre de taxes qui sont en train de converger. On a le poids de l'histoire là-dessus. Donc on rattrape le poids de l'histoire. Ça prend un tout petit peu de temps. Mais ce que je peux vous dire encore une fois, c'est que les prévisions des constructeurs sont en train d'être explosées aujourd'hui. On avait des constructeurs qui nous disaient encore il y a peu de temps qu'il y aurait 5% de véhicules électriques qui seraient vendus en 2030. On est en 2020, on est déjà à 10%. C'est-à-dire que tout est en train de se mettre en place. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'accompagne et puis même on l'anticipe en mettant des jalons parce qu'il faut aussi de la prévisibilité. Mmh. Vous savez, des chaînes de construction d'industrie automobile, ça ne se change pas en 6 mois.
Surtout quand l'industrie automobile est frappée de plein fouet par les conséquences économiques de la crise du Covid et que les grandes entreprises sont aidées à coups de milliards d'euros. Karine Bécard.
Alors, on est déjà rentré dans le vif du sujet, mais j'aimerais vous entendre sur, globalement, sur toutes les dispositions, parce que Dieu sait que cette loi, elle est épaisse. NUPES. Quelles sont, selon vous, les dispositions les plus emblématiques, celles que vous avez vraiment envie de porter? Pourquoi celles-là et quand est-ce qu'elles se mettront en place? C'est-à-dire, quel est le calendrier, finalement, pour qu'on comprenne l'espace-temps qu'il va y avoir avec cette loi climat et résilience?
Barbara Pompili.
Une des mesures les plus emblématiques, elle concerne le bâtiment. Vous savez que nos émissions de gaz à effet de serre, il y en a à peu près un quart qui sont émises par le bâtiment, le secteur du bâtiment. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est permettre à tout le monde de pouvoir rénover son logement. On met en place une mesure très importante. À partir de 2028, on ne pourra plus louer des passoires énergétiques. C'est quoi une passoire énergétique? C'est un endroit où les gens ont froid en hiver, ont trop chaud en été, où parfois les gens payent 1000 euros par mois de chauffage. Voilà ce que c'est dans la vie quotidienne des gens. Ça coûte en plus, pour la société, ça coûte 650 millions d'euros par an. Donc on est sur des chiffres énorme, eh bien, grâce à moi, grâce à nous, on va interdire cette location en 2028. Mais pour faire ça, il faut qu'on puisse aussi, justement, donner les moyens à tout le monde de le faire. Mettre en place des mesures pour que, déjà, les artisans puissent se former, qu'on ait toute une filière qui se développe.
Il faut 7 ans pour faire ça, en fait, 2028. Il faut 7 ans pour faire ça.
Et je peux vous annoncer aussi que pour les passoires thermiques les pires, c'est-à-dire celles qui sont notées en G dans les fameux diagnostics qui sont mis sur les annonces immobilières, eh bien, à partir de 2025, ce sera interdit. Dès l'année prochaine, il va y avoir un gel des loyers sur ces passoires. Et surtout, et ça c'est une annonce que je vous fais, à partir de la fin de cette loi, nous allons mettre un accompagnement de A à Z pour les gens. Qu'est-ce qu'ils nous disent
justement, c'est là-dessus François. Que je voulais des précisions. Parce que vous dites c'est très bien d'avoir des objectifs, mais concrètement, les foyers modestes, quelles aides vont-ils bénéficier pour arriver à ça?
Aujourd'hui, les foyers, modestes ou pas modestes d'ailleurs, nous disent c'est trop compliqué encore. Malgré ma prime rénov, qui est une mesure qui explose aujourd'hui. Aujourd'hui, en 3 mois, on a eu autant de demandes quasiment qu'en 1 an l'année dernière. Donc il y a une pression. C'est trop compliqué. Donc ce qu'on va mettre en place, et ça va être mis dans la loi, et ça je peux vous l'annoncer, si évidemment les parlementaires le votent, mais il me semble que c'est une mesure de bon sens, une personne qui veut rénover son logement va pouvoir appeler quelqu'un, va avoir en face d'elle un interlocuteur unique, une personne qui va aller dans son logement, qui va lui dire, bon, alors là vous avez besoin de ci, de ça, pour améliorer la performance de votre logement, ça va coûter tant, grâce aux aides, on va vous aider pour faire en sorte que vous puissiez bénéficier de toutes les aides s'il y a un reste à charge. Ce reste à charge, notamment pour les personnes les plus en difficulté, il y a une mesure qui va être mise en œuvre pour qu'elle puisse justement faire ce financement et qu'elle puisse le payer. Et ensuite, elle va être orientée vers des bons artisans, des artisans formés, des artisans de confiance. Et la personne, toujours le même interlocuteur, pourra, si la personne le souhaite, superviser les travaux. Donc de A à Z, les gens qui veulent rénover leur logement et le rénover bien vont pouvoir être aidés. Ça, c'est ce qui manquait. C'est ce qui manque partout. Toutes les personnes à qui j'en parle me disent, ben, moi, je sais pas très bien à qui m'adresser, je sais pas très bien comment ça marche, j'ai pas toutes les aides, j'ai essayé de faire, mais je m'en sors pas, parce que il y a une complexité.
Mais cette personne-là,
ça veut dire que les foyers les plus modestes sont en même temps.
Cet interlocuteur, on la trouve où? Cet interlocuteur, on le trouve où?
Eh ben, on aura un numéro de téléphone à appeler, on aura une personne qu'on pourra avoir pas loin de chez soi, à côté de chez soi, qui sera une personne physique. Ce sera pas un interlocuteur à l'autre bout du monde, ou ce sera pas un truc sur Internet. Ce sera une personne physique que vous rencontrerez et qui vous accompagnera, qui vous prendra par la main pour vous aider de A à Z.
Qui vous accompagnera ou qui fera en sorte que l'État subventionne la rénovation des logements thermiques, plutôt de la rénovation thermique. Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, vous avez lu sa tribune, dit vous êtes beaucoup trop timide puisqu'effectivement vous allez interdire la location des passoires thermiques, mais en revanche, lui, il vous demande que tous les foyers modestes puissent bénéficier de cette aide, que l'État subventionne vraiment la rénovation thermique. Pourquoi ne le faites-vous pas de façon claire? Parce qu'il n'y a pas le budget? Parce que c'est trop cher, trop compliqué?
D'abord sur les subventions, aujourd'hui, on a des moyens qui ont été mis en place par le plan de relance et qui durent jusqu'à la fin du quinquennat. Ce qu'on va mettre dans la loi, c'est une forme de programmation. C'est bien de marquer dans la loi que dans les prochaines lois de finances, il y aura une programmation du financement de ces travaux pour donner une visibilité à tout le monde et notamment à nos artisans pour leur dire lancez-vous, formez-vous parce qu'il y aura des soutiens de l'État qui vont durer au-delà de ce quinquennat. C'est important, vous avez raison, parce que sinon personne ne va trop oser se lancer. Donc les aides de l'État, elles seront là et elles seront là dans le temps.
Françoise Fressoz.
Une autre disposition importante du texte, c'est la possibilité de rétablir une écotaxe régionale. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement s'il y a déjà des régions qui ont été, qui sont candidates à cette écotaxe, et comment éviter ce qui s'était passé sous François Hollande, le mouvement des bonnets rouges, où il y avait eu une vraie révolte des transporteurs routiers? Comment vous allez faire pour faire passer cette mesure?
Barbara Pompili.
Alors d'abord, c'est une faculté qu'on donne aux régions. Nous avons des régions qui souhaitent avoir une écotaxe, d'autres pas. Et bien là, dans la loi, on donne la faculté aux régions qui le souhaitent, parce qu'elles ont des spécificités régionales, de pouvoir mettre en place une écotaxe. Donc il n'y a rien d'obligatoire.
Alors lesquelles, par exemple, pour être très concret?
Aujourd'hui, il y a déjà une région où ça s'est appliqué. Et ça a été fait parce qu'on lui a donné l'autorisation à cette région. C'est la région Grand Est et c'est l'Alsace qui met en place cette écotaxe. Ensuite, il y a certains présidents de région qui ont annoncé qu'ils souhaitaient le faire. Madame Pécresse, par exemple, a annoncé qu'elle souhaitait le faire. Donc, encore une fois, nous, on n'est pas là pour prendre les décisions à la place des élus. Ce qu'on veut, c'est leur donner la possibilité de le faire s'ils le souhaitent, s'ils ont des caractéristiques territoriales qui les poussent à le faire. Ils auront cet outil, ils pourront l'utiliser s'ils le souhaitent ou pas, s'ils ne le souhaitent pas.
Barbara Pompili, cet après-midi, il y a donc cet appel à la mobilisation pour une vraie loi climat. Il y a eu un contre-projet de députés écologistes qui se réclament de la Convention citoyenne et qui critiquent votre texte et qui le trouvent, en tout cas, pas assez ambitieux. Et d'ailleurs, c'est le cas de Mathieu Orphelin, par exemple, qui est un ex-marcheur et qu'on entendait ce matin sur France Info. Et il disait que, avec d'autres, avec les ONG, que je pense à Greenpeace ou d'autres, que vous n'allez pas assez loin, comme si vous n'aviez pas pris la mesure de l'ambition ou du défi climatique.
Vous savez, ça fait 20 ans que je suis engagée dans l'écologie, ça fait 20 ans que je me bats pour qu'on avance, pour qu'on prenne conscience de l'urgence et pour que on prenne les mesures les plus ambitieuses possibles. Ces marches pour le climat, moi je trouve que c'est très bien qu'elles existent, parce que d'abord elles montrent qu'il y a quand même, malgré la crise que nous vivons aujourd'hui, la crise de la Covid, la crise économique, il y a cette conscience qui est là et qui existe et qui est importante. Donc moi je suis heureuse de voir qu'un certain nombre de citoyens se mobilisent pour ça.
Vous êtes heureuse qu'on qualifie votre texte de trahison de la Convention citoyenne?
Je suis heureuse qu'on ait des mobilisations pour le climat. Je suis heureuse que cette préoccupation soit toujours là. Pourquoi? Parce que tout le monde, ces personnes qui se mobilisent ont raison. Une fois que la crise Covid sera terminée, la crise climatique sera toujours là. Et donc il faut qu'on s'en occupe. Et moi je peux répondre à ces personnes qui se mobilisent, on s'en occupe. Justement, j'ai des collègues qui sont en train de gérer la crise sanitaire et la crise économique actuellement. Moi, mon travail, c'est de m'occuper de la crise latente qui est là, qui est la crise climatique, pour justement que, une fois que les autres problèmes auront été résolus, je souhaite le plus tôt possible, ben pour montrer qu'on n'a pas traîné pour s'en occuper. Une des plus grandes lois du quinquennat qui a lieu en ce moment, pendant la crise, c'est une loi sur le climat. Et cette loi-là, elle porte un certain nombre de mesures qui sont des mesures qui vont très loin, qui vont beaucoup plus loin que ce qui a jamais existé et qui surtout vont s'appliquer dans la vie quotidienne. Le monde va voir ça dans sa vie quotidienne.
Mais face à cette mobilisation qui est forte et visiblement dont vous vous réjouissez, on a l'intuition quand même que il aurait fallu avec cette loi en profiter pour changer de dimension. Ce changement de dimension dans cette loi-là, on le voit pas. Est-ce que quand même il n'y a pas une occasion manquée?
Barbara Pompili.
Le changement de dimension, on va le voir dans tous les aspects de notre vie. On va le voir à l'école, avec des enseignements qui vont être renforcés. D'ailleurs, les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont beaucoup axé là-dessus. On va le voir dans les logements, je viens de vous l'expliquer. On va le voir dans nos transports. Vous savez ce qui va se passer, là, avec la mise en place des zones à faible émission mobilité? Je ne sais pas si ça fait, c'est un mot un peu barbare. Ça va toucher la moitié de la population française. La moitié de la population française vit dans des agglomérations de plus de 150 000 habitants. Ben, dans ces agglomérations-là, il va y avoir des voitures qui ne pourront plus rentrer. Des véhicules qui ne pourront plus rentrer.
Ça existe déjà, Barbara Pompili.
Ça existe dans deux agglomérations aujourd'hui. Dans 4 d'ici l'année prochaine. Là, on sera dans 35. À partir de 2025. Donc là, on va toucher la moitié de la population. Et la moitié de la population, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens, concrètement, ne pourront plus accéder à des centres-villes. Eh bien, pour qu'ils ne puissent plus accéder à des centres-villes, il faut qu'on mette en place toutes les mesures qui vont avec, c'est-à-dire du covoiturage. Le covoiturage, c'est une mesure sociale. J'ai vu une femme qui faisait du covoiturage sur Lyon, elle économisait 800 euros par an grâce au covoiturage. C'est aider les gens à changer leur voiture, c'est développer les transports en commun, c'est développer les parkings relais, c'est développer le vélo. Tout ça, ce sont des mesures concrètes qui vont être mises en place. La moitié de la population française va voir ça dans sa vie quotidienne très vite. Je peux vous dire que ça c'est ambitieux et que c'est pas si simple à mettre en place. Il va falloir mettre en place des radars, il va falloir mettre en place... C'est du concret ça, c'est pas de l'incantation.
Une loi climat, quelque chose d'extrêmement concret, le haut commissaire au plan François Bayrou disait l'importance de maintenir une production d'électricité nucléaire en France. Quelle est votre position sur l'importance de cette énergie à ses yeux pour lutter contre le réchauffement climatique ?
On est aujourd'hui à 70% de notre électricité en France, qui est produite par des centrales nucléaires. Donc, le nucléaire a une place forte dans notre production d'électricité aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse rééquilibrer notre mix. On est trop dépendant du nucléaire, on a besoin de développer les renouvelables. Je pense que
N'oubliez pas que vous avez été membre d'un parti écologiste, Barbara Pompili, et le nucléaire, c'est vraiment une ligne rouge et c'est une ligne de fracture. C'est même la lutte contre le nucléaire qui a structuré le mouvement écologique en Allemagne,
oui,
par exemple.
Oui, je vous le confirme.
Vous avez été une militante anti-nucléaire,
je vous le confirme également. Ce que je peux vous dire...
Mais comment est-ce que la militante anti-nucléaire, aujourd'hui, se satisfait de voir que le nucléaire restera aussi important dans la production d'électricité en France?
Alors, déjà, on va dire quelque chose. Même les militants antinucléaires les plus chevronnés vous diront qu'il est complètement idiot et absurde de penser qu'on peut arrêter le nucléaire en France du jour au lendemain. Donc ceux qui vous... Personne ne vous dit ça, en fait. Je vais même pas... Ceux qui vous disent ça sont des fous ou des irresponsables. Personne. Donc la question, c'est
Jean-Luc
comment
Mélenchon
on fait.
Le présente dans son programme comme un objectif à atteindre rapidement, beaucoup plus rapidement en tout cas.
Tous les gens raisonnables vous disent que il faut, si on voulait sortir du nucléaire, il faudrait au moins une génération pour le faire, à peu près. Donc il faut une génération. On n'arrête pas le nucléaire en 10 ans dans un pays qui a 70% de nucléaire, ce serait complètement irresponsable.
Donc vous avez changé d'avis.
Non, absolument pas.
Quand vous étiez militante anti-nucléaire,
toujours dit ça. Trouvez-moi une parole où je ne dis pas ça. Moi, ce que je veux, en tant que responsable de la politique énergétique de notre pays, c'est baisser la part du nucléaire. Elle est prévue à 2035 à 50%. Augmenter la part des renouvelables. Aujourd'hui, on est en retard sur l'augmentation de la part des renouvelables. Moi, je suis très fière que ce soit sous ma responsabilité qu'on va avoir enfin les premières éoliennes qui vont sortir de mer. On a trop de retard. On a 25% aujourd'hui. En 2020, on avait 25% à peu près de notre électricité qui était faite aux renouvelables. On doit atteindre 40% en 2030. C'est ça mon objectif. C'est augmenter les renouvelables. Ensuite, il va y avoir effectivement un débat sur qu'est-ce qu'on fait après 2035. Moi, ce que je veux, c'est qu'il puisse y avoir un vrai débat sur le sujet. François Bayrou est une des personnes qui a lancé le débat. Très bien.
Vous êtes d'accord avec lui?
Ah, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit quand il dit que le 100% renouvelable en 2050, c'est l'objet de doux rêveurs. Moi, ce que je veux, c'est qu'on parle de faits. On a, sauf si l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie et Réseau transport d'électricité sont des doux rêveurs, c'est possible. Ils ont sorti un rapport il y a un mois qui dit que c'est techniquement faisable. Après, il y a des contraintes si on veut faire cela. Il y a aussi des contraintes si on veut continuer le nucléaire. Tout ça doit être mis à plat. Moi, ce que je veux, c'est que les conditions du débat soient posées. Vous savez, pendant trop nombreuses années, les décisions sur notre politique énergétique, elles sont passées bien au-dessus des citoyens. Ça a été décidé par des personnes, par des sachants, dans leur coin, sans jamais interroger les citoyens.
Mais
eh bien,
en
là, ce que je veux, c'est qu'il y ait un vrai débat là-dessus. Et mon opinion ou l'opinion de François Bayrou pèseront comme d'autres. Mais à la fin, ça doit être les citoyens qui décident.
Mais soyez concrète, combien de nouveaux réacteurs sont programmés dans les années qui viennent en France,
zéro.
Par exemple?
Concrètement,
on n'en a pas demandé à EDF.
Concrètement, aujourd'hui, il y a zéro nouveau réacteur qui sont programmés en France. Par contre, il y a des options qui sont sur la table, il y a des options qui vont être, encore une fois, décidées. Le choix se fera après ce quinquennat, donc ce ne sera pas dans ce quinquennat-là. Est-ce que oui ou non, on relance des réacteurs ? EDF souhaite relancer 6 réacteurs EPR, d'autres pensent qu'il ne faut pas. D'autres pensent qu'il ne faut pas faire des gros réacteurs, mais faire des petits SMR. Bref, le débat est sur la table. Est-ce qu'il faut faire ça, relancer le nucléaire, ou est-ce qu'il faut partir vers 100% renouvelable ? C'est une question. Mais EDF est un opérateur de l'État. Ce ne sont pas eux qui doivent décider, et ça me paraît beaucoup mieux comme ça.
Françoise Fressaud.
Une question sur les éoliennes, parce que c'est un sujet qui suscite aussi des crispations. Beaucoup d'élus disent il y a une implantation un peu trop sauvage, ça détériore le cadre de vie. Est-ce que vous avez une envie de reprendre un peu en main ce dossier ou pas ?
On le reprend en main notamment dans la loi climat, puisque sur les éoliennes, il y a des régions qui ont fait beaucoup d'efforts, d'autres moins. On a ce qu'on appelle une programmation pluriannuelle de l'énergie qui nous donne des objectifs, qui dit il faut faire tant d'éoliennes à telle échéance, etc. Aujourd'hui, c'est un débat au niveau national, et puis j'ai l'impression qu'on lance un peu les chiffres en l'air, et puis on attend que ça retombe bien sur les régions. Évidemment, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, dans le texte de loi, justement, dans le texte climat résilience, il y a des mesures pour que chaque région décline ses objectifs sur son territoire et travaille ensuite avec les collectivités pour dire, voilà, on a besoin de tant d'éoliennes sur notre territoire, où est-ce qu'on va les mettre ? Travaillons tous ensemble, et ça donnera en plus de la visibilité, ça ne donnera plus ce sentiment qu'on a des éoliennes qui poussent
mais
un peu partout.
Mais vous reconnaissez que ça peut être un problème sur le paysage ou pas, ça ?
Alors, qu'il y a une question d'acceptabilité. Clairement. Et on y travaille. Et d'ailleurs, on a travaillé notamment sur le balisage. Vous savez, la nuit, cet effet guirlande de Noël. On est en train d'aboutir, là, à faire en sorte qu'il puisse y avoir des éoliennes qui ne s'allument, entre guillemets, que quand il y a des avions qui passent. Voilà un travail qu'on fait. Il y avait une question aussi sur les fondations des éoliennes qui restaient dans le sol. Ça y est, maintenant, ça n'est plus possible. C'est-à-dire, quand on enlève les éoliennes, on doit tout enlever, y compris les fondations. Et puis, il y avait un sentiment d'un certain nombre de personnes que ça leur échappait. Donc, on développe aussi les éoliennes citoyennes, c'est-à-dire des personnes des citoyens qui peuvent participer aussi à ce développement des éoliennes, puis s'en récupérer aussi un peu les bénéfices, et tant mieux. Aujourd'hui, on a aussi des agriculteurs qui ont récupéré les bénéfices. Après, sur les paysages, l'idée qu'on ait une cartographie qui va être faite par les préfets va aussi être inscrite dans le projet de loi. Donc une cartographie pour dire, là c'est possible, parce qu'il n'y a pas de problème, là ça n'est pas possible. Pour des questions de paysage, mais aussi pour des questions de radar militaire, ou pour des questions de vent aussi, tout bêtement, mettre des éoliennes là où il n'y a pas de vent, ça n'a pas de sens. L'important, c'est qu'on ait une visibilité, que les gens sachent où il peut y en avoir, où il n'y en aura plus. Il y a des régions qui ont fait des gros efforts, donc il faut aussi rétablir un peu d'équilibre. Je crois que c'est ça qui est important, c'est que tout le monde soit associé et qu'on n'ait plus l'impression d'être dans le flou.
La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, est l'invitée de Questions politiques jusqu'à 13h.
France Inter, Ali Badou, Questions politiques.
Avant votre portrait, Barbara Pompili, il faut parler d'autres sujets qui sont liés à votre portefeuille ministériel, puisque tout ne se résume pas dans le combat écologique à la question climatique. Lorsque vous étiez députée, vous aviez fait une proposition de loi pour faire interdire la chasse à courre et la vénerie sous terre. Vous en parliez comme d'une chasse particulièrement cruelle, source de stress évidemment pour le gibier. Où en est cette conviction que vous avez ? Est-ce que vous avez changé d'avis ? Et pourquoi est-ce que vous ne l'interdisez pas ?
Parce que je ne peux pas tout faire en même temps et parce que je pense qu'il y a un certain nombre de débats qui doivent se tenir. Sur la chasse à courre, et il y a des images, il y a des actes qu'on a pu voir qui sont extrêmement choquants et qui nécessitent une régulation. On a un organisme régulateur de la chasse à courre, une association de vénerie, qui s'occupe de faire un peu le ménage chez
vous
eux.
Vous vouliez la faire interdire ?
C'est vrai, mais vous savez, à l'époque, je n'étais non seulement pas ministre, mais en plus, je voulais poser ça au débat. Proposer une proposition de loi, c'est faire en sorte que le débat puisse s'installer. Qu'il puisse y avoir un débat sur des pratiques de chasse, il faut qu'il ait lieu. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse regarder les faits et qu'on puisse avancer. Il y avait des pratiques de chasse qui portaient atteinte à la biodiversité. J'y ai mis fin, notamment, par exemple, la chasse à la glu.
Ça a été difficile.
On l'a fait et l'Europe nous a récemment donné raison. Donc, sur ces sujets-là, on voit qu'il y a une demande sociétale qui est en train d'augmenter et qu'il y a des pratiques qui doivent s'interroger et qui doivent maintenant être revues. Donc, soit la pratique de la chasse et de certaines chasses évolue, soit il va falloir prendre des mesures.
Donc interdire ?
Ah mais on verra. On verra. Encore une fois, je ne veux pas prendre de décision avant que le débat ait eu lieu. Moi, comme d'autres, on
vous
a
posé le
débat. Vous
avez l'impression que le débat n'a pas eu lieu, mais bon, non, on ne va pas régler le problème aujourd'hui.
On ne va pas régler le problème tout seul entre nous à Paris, ça c'est clair. Il faut que le débat ait lieu sur les territoires aussi.
Vous savez que partout en France, les gens nous entendent et peuvent débattre de la chasse à cour, Barbara Pompili, même si nous sommes effectivement dans un studio à Paris. Jeff.
Qui dit chasse à cour dit gibier, qui dit gibier ne dit pas menu végétarien, et c'est là-dessus que je voudrais avoir votre réponse. Est-ce que ça doit rester, puisque ça fait partie aussi de votre projet de loi, est-ce que les menus végétariens à la cantine que vous voulez favoriser, ça doit rester un choix, ou est-ce qu'à terme, selon vous, ça doit être la norme? Quelle est la réalité? Est-ce qu'il faut qu'il y ait à l'école, dans l'avenir, des menus végétariens, des menus sans porc parfois, des menus pour tout le monde? Comment on fait? Est-ce que l'école en a les moyens, tout simplement?
Barbara Pompili.
Alors, l'école en a les moyens. Il y a eu, suite à la loi Egalim, une expérimentation qui a été faite dans des écoles, justement, sur un menu végétarien. Et on a vu que, globalement, ça se passait plutôt bien, que ça ne favorisait pas trop, pas plus que d'autres menus, le gaspillage, et qu'on pouvait avoir des menus végétariens tout à fait équilibrés, sans aucun problème. Autant que des menus avec de la viande, en fait. La question, c'est d'avoir un menu équilibré.
Vous n'êtes pas tous d'accord au gouvernement là-dessus.
Sur cette question précise, d'abord, on a besoin d'avoir une formation. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est reconnu par tout le monde. On a besoin d'avoir une formation des cuisiniers et on va le mettre en place grâce à la loi Climat et Résilience. Ensuite, l'important, c'est qu'on puisse avoir le choix. Je suis d'accord avec vous. Des personnes qui veulent continuer à manger de la viande doivent pouvoir en manger et des personnes qui veulent pouvoir manger végétarien doivent pouvoir le faire. Et nous, ce qu'on essaye, c'est de mettre en place l'organisation pour y arriver. Et ceux qui veulent manger de la viande, moi, je tiens aussi à ce qu'ils puissent manger une viande qui soit de bonne qualité, qui soit une viande qui soit de la viande française, qui soit de la viande labellisée. Bref, des viandes qui sont les viandes reflets du savoir-faire français.
L'élevage, c'est pas votre domaine. Il vous échappe complètement. Et donc, les conditions d'élevage des animaux dans l'industrie agricole, elles vous échappent. Malgré tout, il y a une loi sur la maltraitance animale qui a été votée par l'Assemblée, elle n'est toujours pas prévue au Sénat. Vous savez pourquoi ?
Oh, alors là, je ne sais pas. Je pense qu'on a un vrai souci aujourd'hui d'agenda parlementaire qui est en train de se remplir de plus en plus fort et qui demande un certain nombre de choix. J'espère qu'elle sera mise à l'ordre du jour du Sénat le plus tôt possible. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai pas attendu cette loi pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour protéger les animaux, notamment sur l'interdiction des animaux dans les cirques itinérants, des animaux sauvages, mais aussi sur la fin des delphinariums, mais aussi sur la fin des élevages de visons, exactement, qui vont finalement être interdits et parce que élever des animaux sauvages pour leur fourrure, on voit aussi que là, on est en total décalage par rapport à l'évolution de la société, de son regard vis-à-vis de l'animal. Ce sont des mesures importantes, mais ce sont aussi des mesures qui demandent une adaptation. Quand on demande aux circassiens de ne plus travailler avec des animaux sauvages une fois qu'ils sont en déplacement, c'est un changement profond dans leur métier. Donc il faut les accompagner, il faut les aider aussi à passer ce cap et à réinventer un cirque sans animaux sauvages.
Et à ceux qui pratiquaient l'élevage intensif.
Et en plus, pardon, je termine, quand on me dit, bah, par exemple, sur les cirques, faut arrêter tout de suite, non, on a des animaux qu'il faut placer, dont il faut s'occuper, on va pas les laisser comme ça, sans solution. Donc c'est un travail qui prend du temps. Et ça, ça relève de mon ministère.
Et l'élevage intensif?
Sur l'élevage intensif, vous connaissez ma politique, et qui est aussi une position qui est portée depuis longtemps. Nous, ce qu'on veut, c'est développer le bien-être animal partout, y compris dans les élevages.
Une dernière question, peut-être encore sur cette loi climat et résilience. Il y a tout un chapitre qui est consacré, je crois, sur les extensions, ou l'annulation d'ailleurs des extensions dans les aéroports.
Oui.
Et vous aviez annoncé donc la fin, vous aviez stoppé, vous avez annulé le terminal 4 à Roissy-Charles de Gaulle.
Absolument.
Il y a quelques semaines.
Il y a quelques semaines, oui.
C'est un peu ambigu parce que finalement on a compris que c'était parce qu'il était obsolète ce projet, qu'il avait été annulé. On a le président d'ADP, le PDG d'ADP Aéroports de Paris qui finalement aurait été sollicité pour revoir ce projet et retravailler. Est-ce que vous pouvez clarifier la situation en fait ? Il y aura un nouveau terminal ou pas, neuf, et est-ce qu'il s'agit d'accueillir plus de gens finalement à Roissy-Charles de Gaulle?
Non, ce terminal T4, c'était un terminal qui était basé sur une augmentation très forte du nombre de vols et du nombre de passagers. Ça ne prenait absolument pas en compte les enjeux sur l'aérien. On a demander à Aéroports de Paris d'arrêter ce terminal T4, de réfléchir à l'organisation de l'aéroport Charles de Gaulle, donc là plus largement, pour qu'il puisse être un vrai lieu où il puisse y avoir une intermodalité, c'est-à-dire justement développer plus de trains, plus de gens qui vont venir en train jusqu'à l'aéroport, et pour éviter que des gens viennent en avion jusqu'à l'aéroport. Donc il faut développer les transports en commun.
Bon,
il faut adapter l'aéroport à des nouveaux avions qui seront des avions bas carbone. On développe les avions à hydrogène d'ici 2030. Donc il faut aussi que les aéroports puissent les accueillir, et puis aussi que l'aéroport fonctionne de manière plus écologique. C'est ça qu'on a demandé au président d'Aéroports de Paris.
Le temps passe. Encore une question rapidement sur la publicité. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre projet de loi ?
Vous savez, il y a des sommes colossales qui sont mises sur la publicité parce que ça a une influence sur les gens. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la publicité tienne compte aussi des enjeux écologiques. Donc dans la publicité, il va y avoir, et ça je peux vous l'annoncer aussi, si les députés le votent toujours, puisque je suis très respectueuse du rôle du Parlement,
oui.
Il va y avoir un affichage environnemental sur la publicité. On va aussi avoir une définition du greenwashing pour arrêter de faire croire qu'un produit est neutre en carbone, quand c'est faux, parce que c'est faux, la plupart des produits ne sont pas neutre en carbone. Et puis aussi, nous avons des engagements qui ont été pris, qui sont très forts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, de dire qu'il n'y aura plus de publicité pour l'alimentaire dans les programmes pour enfants. Pendant des années, on a eu des débats là-dessus. Eh bien, aujourd'hui, il n'y en aura plus. C'est extrêmement important. Je pourrais développer un peu plus sur la publicité, si vous le souhaitez.
On aurait envie d'en parler. Évidemment, il y a aussi d'autres questions, par exemple les publicités lumineuses qui sont interdites dans un certain nombre d'agglomérations. Mais d'abord,
non, elles ne sont pas interdites. On dit aux maires qu'ils vont pouvoir le réguler en fonction des spécificités de leur territoire.
Ce que je veux dire, c'est que certains maires interdisent la publicité lumineuse dans leur ville.
S'ils pensent qu'il faut le faire, eh bien, ils doivent pouvoir le faire.
Et juste, peut-être une petite question là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas la crainte, au fond, de rendre très tristes, en fait, les villes ? Par ces problèmes d'éclairage, par ces problèmes de... Au fond, de, il y a presque un côté, là, je trouve, un peu punitif sur, au fond...
Que serait Times Square sans les enseignes lumineuses ?
Il faut en rabattre dans...
par exemple.
Alors là, j'avoue que je suis un peu scotchée par votre question. Une ville n'est pas gaie quand il y a des vitrines allumées la nuit et qu'il n'y a personne
dehors.
Quand il y a
de la lumière, elle est plus gaie que quand la lumière est très faible. Je pense quand même.
D'abord, il y a ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Moi, vous savez, le fait que je puisse pas voir les étoiles dans le ciel, je trouve ça très triste. Donc vous voyez, ça dépend du point de vue duquel on se place. Et en plus, ça pose un vrai problème sur la biodiversité. On a des animaux aujourd'hui qui vivent très mal et qui même disparaissent parce que ils ont leurs organismes qui sont mis à mal par la lumière quand elle est inutile. Une ville triste, c'est une ville ou une commune, c'est une ville où il n'y a plus d'activité, où il n'y a plus de commerce, c'est une ville où il n'y a plus de spectacle. Et malheureusement, en ce moment, à cause de la crise Covid, on le voit bien, c'est une ville où il n'y a plus d'interaction sociale, où les gens ne se parlent pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire que une ville serait triste tout simplement parce qu'on éteint la lumière le soir? Franchement,
il y a beaucoup d'autres
choses pour rendre une ville gaie.
Paris, ville lumière. Il faut arrêter de l'illuminer la Tour Eiffel.
Ah oui.
Ah, c'est une question. C'est une question qui n'est pas tranchée. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'endroits où on peut arrêter les lumières, et où, parce que moi on parlait aussi de problèmes de sécurité.
Or,
ce ne sont pas des problèmes de sécurité.
C'est le symbole.
La Tour Eiffel est éteinte la nuit. Je crois qu'à partir de minuit, elle est éteinte.
À partir de minuit, effectivement, il n'y a plus toutes les heures.
Votre portrait, Barbara Pompili, il est signé Karine Becker.
Allez, on y va. Difficile de ne pas commencer par observer, Barbara Pompili, que vous êtes, en moins de 4 ans de pouvoir macroniste, la 4e ministre de l'écologie, enfin ministre de la transition écologique, comme on dit aujourd'hui. Nicolas Hulot, la pépite verte qui avait été débusquée, n'est finalement pas restée. François de Rugy, après avoir été moralement discrédité, l'ancien président de l'Assemblée a été prié de s'en aller. Et Elisabeth Borne, la techno qu'on a un peu oubliée, n'a effectivement jamais réussi à imprimer. Donc place à vous désormais, Barbara Pompili, vous qui n'avez jamais cessé de faire de la politique et vous qui avez toujours défendu des convictions écologiques. À l'âge de 25 ans, vous êtes entrée au Parti des Verts. Et pendant 15 ans, vous aurez deux mentors, Yves Cochet et Noël Mamère. Avec eux, vous avez beaucoup bossé, digéré pas mal de dossiers et vous allez continuer à avancer. À 37 ans, vous êtes élue députée et surtout, Barbara Pompili, vous devenez la toute première femme à co-présider votre groupe parlementaire à l'Assemblée.
J'ai envie de faire que le monde soit un peu meilleur. Et si je peux apporter ma petite pierre, je vais le faire. Si le fait d'avoir une exposition aux médias peut permettre de me donner un peu plus de force pour faire avancer les choses, eh ben tant mieux.
J'ai envie de faire que le monde soit un peu meilleur. Novembre 2012, cette volonté que vous avez, cette sincérité, personne, c'est vrai, ne peut vous les enlever. Mais vous avez aussi, vous savez, manœuvrer, Barbara Pompili. D'abord, quand vous décidez, vous, de rester proche du président Hollande pendant toute la durée du quinquennat, vous avez même préféré quitter votre parti, Europe Écologie Les Verts, quand il a repris sa liberté. Quelques mois plus tard, vous en serez remercié, nommé ministre chargé de la biodiversité. Ce qui ne vous a pas empêché ensuite d'être la première au sein du gouvernement à rallier la candidature d'Emmanuel Macron officiellement, peu importe qu'il ait doublé votre président et peu importe que vous l'ayez critiqué 3 ans auparavant.
Il représente une politique qui n'est pas celle sur laquelle nous nous étions engagés quand nous avons travaillé ensemble sur le pacte présidentiel. Je constate que tous les signaux qui nous avaient été envoyés, qui étaient des signaux de repli, des signaux de droit dans ses bottes et des signaux d'une majorité très resserrée, se sont concrétisés avec le symbole qu'est l'entrée d'Emmanuel Macron.
Mais la vérité de ce mois d'août 2014 n'est manifestement plus votre vérité au printemps 2017, qui arrive en politique. L'écologiste que vous aviez toujours été, Barbara Pompili, a accepté de basculer et de prendre l'étiquette macroniste. Ce qui est surprenant, venant de vous, originaire du Pas-de-Calais, petite fille de mineur, qui avait toujours penché à gauche, mais qui avait constamment refusé de devenir socialiste. Parce que le PS n'aurait jamais eu assez conscience de l'urgence climatique, parce qu'il aurait systématiquement fait passer l'économie avant l'écologie. Ce qui est probablement vrai, mais c'est exactement comme Emmanuel Macron, non ?
Barbara Pompili.
Alors d'abord, je rectifie un point.
Allez-y.
Quand j'ai quitté les Verts, suite à leur stratégie au régional. D'ailleurs, ça me fait sourire de voir la stratégie qu'ils ont maintenant, comme quoi on a toujours raison un peu tard. Il y avait un risque de faire gagner Marine Le Pen au régional, la dernière fois, dans ma région des Hauts-de-France. Et les Verts, à cette époque-là, justement, avaient décidé de faire cavalier seul, sans faire d'alliance avec d'autres partis, en prenant le risque de faire gagner Marine Le Pen. Et c'est ça qui a fait que je suis partie, parce que l'écologie est mon engagement en politique. Mais la lutte contre l'extrême droite est aussi un engagement très fort. Et jamais, jamais, jamais je n'aurais laissé passer ça. Et c'est pour ça que je suis partie.
Françoise Fressoz.
Une question sur la politique cette semaine. Il y a eu une très vive polémique entre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Bazarian, parce que, au fond, Strasbourg a décidé de verser une subvention à une mosquée qui est soutenue par une association pro-turque. Comment vous vous positionnez dans ce débat ? Est-ce que vous pensez que c'est Darmanin qui a raison ou vous défendez plutôt l'élu de Strasbourg ?
Barbara Pompili.
Clairement, je pense que la municipalité de Strasbourg n'a pas suffisamment regardé à qui elle versait une aide. Quand on est face à des associations, et là, moi, je connais pas assez bien le dossier pour vous dire c'est ça ou c'est pas ça. Mais quand on est face à une association qui peut être une association qui peut remettre en cause le pacte républicain, qui peut essayer de faire croire qu'il y aurait des lois supérieures aux lois de la République, il faut faire très attention et il faut même lutter contre cela. Est-ce que cette association est le fauné, d'après ce qu'on voit, d'une politique turque qui essaye justement de faire passer ce genre d'idées ? Si c'est le cas, il ne faut pas les subventionner.
Même si c'est légal ?
Même si c'est... Il faut faire des choix politiques dans la vie.
Non, mais c'est
il
la
faut
loi
faire des choix politiques dans la vie.
Autorise ou interdit
vous savez,
certaines choses
vous savez, oui, la loi autorise ou interdit certaines choses. Les mairies, les municipalités sont libres d'accorder ou pas des subventions. Ça fait aussi partie de la loi. À partir du moment où il y a le moindre doute, moi, je serai maire. Si j'avais le moindre doute, je ne donnerais pas d'argent à ce genre d'association. Après, il y a des caps qui peuvent être franchis, qui peuvent donner lieu à des interdictions. Là, on est encore sur autre chose. Mais encore une fois, on a aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on a un certain nombre d'associations qui essayent de briser le pacte républicain. Et ces associations-là, il faut lutter contre.
Loi,
mais face à ça, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de votre collègue au gouvernement, Marlène Schiappa, qui dit, voilà, Europe Écologie Les Verts, c'est de l'islamo-gauchisme. Europe Écologie Les Verts, complicité avec l'islam politique.
Non, je ne pourrai jamais rentrer dans des généralisations. Je suis contre le fait de généraliser.
Mais donc vous dites quoi à votre collègue du gouvernement ?
Je connais bien les Verts. Je sais que chez certains membres des Verts, il y a eu, sous prétexte de lutter très justement contre des discriminations qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a encore, malheureusement dans notre pays, des gens qui sont discriminés à cause de leur couleur de peau, qui sont discriminés à cause de leur sexe aussi, qui sont discriminés pour un certain nombre de raisons. Et donc, lutter contre ça, c'est très important, mais ça ne doit pas faire fermer les yeux sur un certain nombre de manœuvres qui existent, dont je vous ai parlé juste avant. Et parfois, chez certains Verts, il y a pu y avoir cette amalgame. On lutte contre les discriminations et du coup, on peut avoir parfois une complaisance vis-à-vis de ces mouvements-là. Donc, pour cela, oui, je dis faites attention. Mais ça ne concerne pas tous les membres des Verts. Il y a aussi des membres des Verts qui luttent contre ça, comme moi à l'époque et comme moi toujours.
Françoise Fressos, puis Jeffy Optimbert.
Autre question politique, le conseil scientifique doit normalement donner un avis aujourd'hui sur la tenue des élections régionales. Elles étaient prévues en mars, elles ont été repoussées en juin. On se demande si en juin elles pourront effectivement se tenir. Quel est votre sentiment et quel est votre souhait ?
Barbara Pompili.
Moi, j'ai pas de sentiment. Il va y avoir justement un conseil qui va rendre un avis aujourd'hui. On va voir ce que donne cet avis. Moi, je souhaite évidemment que les rendez-vous démocratiques puissent avoir lieu dans notre pays. Tout le monde le souhaite. Si les conditions sont réunies pour le faire, j'en serais très heureuse.
Ce qui a été le cas dans la plupart des démocraties ces derniers temps. Il suffit de penser aux États-Unis, par exemple.
Oui, mais pas partout. Il y a eu aussi des reports, je pense à l'Italie notamment.
Mais vous êtes une ancienne élue, vous connaissez le terrain, vous connaissez les campagnes. Est-ce que c'est possible de faire campagne en ce moment ?
C'est difficile de faire campagne actuellement.
Donc
c'est
du vrai. Coup, on peut les valider.
Il faut c'est vrai, c'est difficile. C'est maintenant, il faut trouver d'autres moyens de faire campagne. On peut faire campagne par plein de vecteurs possibles. Mais arrêter les élections, c'est quand même une décision lourde. Donc il faut la prendre seulement si on est obligé de la prendre. Et donc on va voir quel va être l'avis qui va être rendu aujourd'hui. Et je sais que le gouvernement et que le président de la République souhaitent que les rendez-vous démocratiques aient lieu. Et donc, ils ne peuvent être repoussés que si les conditions sanitaires le nécessitent.
Sauf une élection, la présidentielle, qui elle ne peut pas être déplacée.
Et précisément, pour la présidentielle, on aimerait savoir ce que vous allez faire, parce que je voudrais revenir sur votre ralliement à Emmanuel Macron, qu'évoquait tout à l'heure Karine Bécart dans son portrait. Emmanuel Macron, il avait connu un certain succès au début de son quinquennat, Make Our Planet Great Again, après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Il avait une bonne image en termes d'écologie. Aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus le cas. Le projet que vous allez présenter demain est quand même très décrié. On le voit notamment avec les manifestations de cet après-midi. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, que vous avez donc rallié, a une fibre écologiste et est-ce que ça sera donc le candidat que vous soutiendrez à coup sûr l'an prochain ?
Barbara Pompili.
Le président de la République a clairement pris conscience de l'importance de cet enjeu écologique par les actions qu'il a menées au niveau international, où d'ailleurs je rappelle que la crédibilité de la France est toujours très forte. Oui, quand je prends la parole dans les instances internationales sur les questions écologiques, je vois que la France est toujours écoutée. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai déjeuné avec John Kerry il y a quelques jours. John Kerry, je lui parlais des mesures qui étaient dans le projet de loi climat, notamment par exemple le fait qu'il ne puisse plus y avoir de vols commerciaux, donc d'avions, quand il y a une ligne de train à moins de 2h30. Eh bien, lui me disait, John Kerry, il me disait « Oh, mais ça, chez nous, ça ne passerait jamais !» Jamais. Donc c'est pour vous dire aussi qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs
par
rapport à ce qu'on se fait chez nous.
Le président.
Le président lui-même a pris conscience de cet enjeu. Quand il m'a nommé au gouvernement, il m'a dit qu'il fallait qu'on pousse et qu'on aille le plus loin possible sur cette transition écologique. Et donc je porte cette parole-là, je porte ce bilan-là aussi que le président aura à l'issue de ce vote, mais aussi sur le quinquennat en général. On parle toujours de cette loi climat, il ne faut pas oublier les 30 milliards qu'on a mis sur la transition écologique dans le plan de relance. Enfin, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, tout le monde trouve que tout ça est normal, etc. Mais je peux vous dire que quand je suis arrivée, jamais je n'aurais pensé qu'on pourrait avoir 30 milliards qui seraient voués à la transition écologique de notre pays.
Vous avez déjeuné avec votre prédécesseur Nicolas Hulot récemment ?
Oui, mais j'ai déjeuné avec mes trois.
Non, mais je le dis en souriant parce que vous parliez d'un déjeuner avec John Kerry, mais en l'occurrence Nicolas Hulot, lui, continue d'être sévère. Il continue d'être très sévère avec le bilan du quinquennat en matière écologique. sévère aussi avec votre projet de loi dont il dit qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux et des engagements et que c'est toujours le plus petit dénominateur commun qui est employé. Que lui répondez-vous ?
D'abord, je le remercie parce que quand on a déjeuné ensemble, on a beaucoup échangé et il m'a dit qu'il fallait que je continue à me battre. Et donc, je lui dis que je continue à me battre, que je continue à pousser pour avoir une loi, mais encore une fois, pas seulement une loi, des mesures les plus ambitieuses possibles et que je continuerai à me battre et que je continuerai à porter ce bâton parce que on doit continuer sans arrêt à lutter pour l'ambition écologique. Et ce texte de loi, on verra le résultat à la fin. Vous savez, il faut toujours regarder à la fin ce qu'on a voté.
Bien sûr.
Et puis à la fin, toutes les mesures qu'on a
votées. Mais les votes 2040, de la majorité présidentielle n'est pas forcément incertain. Il y a 7000 amendements déposés.
7000 amendements déposés.
Vous allez avoir du boulot.
7000 amendements déposés, c'est du travail.
La question qu'on se pose, c'est
Françoise.
Pourquoi vous réussiriez là où Nicolas Hulot a estimé, lui, qu'il n'y arrivait pas? Est-ce que vous avez quelque chose en plus ou est-ce que vous êtes arrivé à un moment du quinquennat où il n'y était pas, mais en fait, lui, ce qu'il disait, c'est qu'au fond, il n'est pas écouté, les structures gouvernementales ne sont pas faites pour faire de l'écologie. Qu'est-ce qui fait que vous, vous y croyez quand même ?
Je crois qu'il ne faut jamais baisser les bras. Que le rôle que nous avons, nous, les écologistes, c'est s'il y en a un qui abandonne, l'autre doit prendre le relais. Moi, j'ai pris le relais, je ne baisserai pas les bras, parce que si on baisse les bras, c'est ceux qui veulent que rien n'arrive qui gagnent. Donc jamais je ne baisserai les bras et je continuerai toujours à me battre. Vous savez, je suis mère de famille. J'ai une grande fille qui a aujourd'hui qui est en train de vivre sa dernière année de lycée en confinement avec. Enfin, franchement, je n'aimerais pas vivre ce qu'elle est en train de vivre parce que c'est des années où on doit pouvoir boire des verres en terrasse, où on doit pouvoir s'amuser, où on doit pouvoir aller à des concerts. Eh bien, non seulement ils ont ça, mais en plus ils ont des angoisses sur leur avenir. Moi, ce que je peux faire, c'est de travailler pour qu'ils aient un meilleur avenir. Tout à l'heure, vous avez passé la vidéo où je disais, moi, ce que je veux, c'est apporter ma pierre pour que le monde soit un peu meilleur demain. Eh bien, c'est ce que je veux faire. Et donc, moi, j'utiliserai tous les moyens que j'ai pour faire en sorte qu'on soit prêt pour faire face au changement climatique.
Vous avez déjà menacé de démissionner.
Oui, il y a des lobbies. Et oui, il y a des gens qui veulent empêcher que les choses se fassent. Et oui, il y a des lourdeurs administratives. Mais face à ça, il faut se battre. Si on veut abandonner,
donc,
ben, on
oui,
fait autre chose.
Donc oui, vous avez menacé de démissionner.
Vous avez non, déjà menacé,
jamais menacé de démissionner.
Est-ce que vous avez gardé, Barbara Pompili, un soupçon d'optimisme? Est-ce que vous avez vu les projections réalisées par le Centre National de Recherche Météorologique de Météo France, qui prévoit dans le meilleur scénario, en France, une augmentation de 2,2 degrés à la fin du siècle? Le pire scénario, 4 degrés, ça veut dire, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Enfin, c'est la question qu'on vous pose régulièrement. Mais est-ce qu'on peut encore influer sur le cours des choses quand on voit que seule la crise du Covid, par exemple, a fait baisser les émissions de CO2 au niveau mondial?
Sur la crise Covid, la crise Covid maintenant, on sait que c'est une zoonose et que c'est certainement dû à des animaux. On ne sait pas bien comment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, les scientifiques sont tous d'accord. Si on continue à faire n'importe quoi sur la biodiversité, c'est-à-dire de la déforestation, c'est-à-dire des trafics d'espèces, etc., des crises comme le Covid, elles vont continuer. Et si elles continuent, on va passer notre vie à courir après le prochain vaccin. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que non seulement on lutte pour baisser nos gaz à effet de serre, mais aussi qu'on lutte pour la biodiversité, pour justement qu'on évite à l'avenir d'avoir de nouvelles zoonoses, parce que ça coûte un peu cher, mais je crois que tout le monde a bien compris qu'une crise comme la crise du Covid, ça coûtait encore plus cher.
L'émission
donc
se termine.
Mon travail, c'est de préparer l'avenir, et je peux vous dire que je le fais et que le gouvernement est en train de le faire.
Deux questions rapidement. La question d'abord du référendum. Y aura-t-il un référendum pour inscrire dans le premier article de la Constitution la garantie de la protection de la biodiversité?
Eh oui.
Oui, quand?
À l'automne.
À l'automne.
À l'automne. Je vous rappelle que ça doit être voté par les deux assemblées, mais je suis persuadée que les parlementaires des deux assemblées veulent le climat, la protection du climat et de la biodiversité soient inscrites à l'article 1er de la Constitution.
D'un mot aussi, que pensez-vous de la polémique autour des réunions non mixtes? Est-ce que vous apportez votre soutien à Audrey Pulvar ou est-ce que ces propos ont pu vous choquer?
C'est pareil. On parlait tout à l'heure de la lutte contre la discrimination. Je crois que c'est très important de lutter contre toutes les discriminations. Mais je crois que cette solution-là, c'est une erreur. Clairement, c'est une erreur.
Les réunions non mixtes.
Oui, c'est une erreur. En tant que femme, je sais qu'il y a des endroits où, en tant que femme, si je veux y aller, je ne serai pas la bienvenue. Dans certains endroits, dans certains bars, etc. Et donc, se dire que pour lutter contre ça, on va recréer la même chose, je crois que c'est vraiment une erreur. Je crois qu'il ne faut pas faire ça.
Et pourtant, ça a été, dans le mouvement féministe, une pratique qui a longtemps eu cours, au MLF notamment.
Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on lutte contre les discriminations. Pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes, pour lutter pour les droits des femmes, il faut que tout le monde se mobilise, pas seulement les femmes. Il faut mobiliser les hommes aussi. Et je connais énormément d'hommes qui veulent se mobiliser pour ça. Et donc, il faut qu'on soit tous ensemble et pas qu'il y ait quelques-uns qui soient les tenants de cette lutte.
Merci Barbara Pompili d'avoir répondu à nos questions. Bon dimanche, l'émission, et bon courage pour ce qui vous attend.
Merci.
Et les 7000 amendements qu'il faudra examiner à l'Assemblée à partir de demain. L'émission se termine. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain.